9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Bonjour Amélie Lamiran.
Bonjour.
Hier, jeudi, c'est un magazine vieux de presque 50 ans qui a fait son retour dans les kiosques. 118 pages et un peu plus, j'expliquerai comment, en couleur. 5,90€. 100 idées, magazine culte des années 70-80, qui vendait jusqu'à 420 000 exemplaires. Pour qui ne l'a pas connu, c'était quoi 100 idées en gros ?
Idée, c'était un magazine qui a un petit peu bouleversé la presse féminine à l'époque parce qu'il bouleversait les codes.
On trouvait quoi dedans ?
Alors, tout sur le faire soi-même, c'est-à-dire faire ses vêtements, bricoler pour sa maison, faire ses recettes de cuisine, ses recettes de cosmétiques. Finalement, plein de choses qui sont totalement d'actualité.
Comme le dit joliment le JDD qui consacre un papier à cette relance, c'est Cyril Petit qui dit « Le monde d'après ressemble à celui de bien avant ». Et alors, vous êtes journaliste, vous ne travailliez pas à l'époque évidemment à 100 idées, vous êtes beaucoup trop jeune. Tout est parti de votre propre expérience du confinement.
C'est ça, exactement. Donc on s'est retrouvés en fait pendant le confinement avec plein de temps à allouer à des activités qu'on ne pratiquait plus.
Ouais.
On y a pris énormément de plaisir et on s'est dit, faut en faire quelque chose, faut partager cette expérience.
Vous êtes journaliste, vous faites partie d'un groupe qui s'appelle Turbulence Presse, un groupe
c'est
qui
ça.
A Clermont, c'est ça ? Vous
c'est
éditez ça. Quoi comme magazine ?
Alors, on a des magazines de sport, des magazines presse enfant, on a des magazines de cuisine et des magazines sur le bien-être.
Cent idées appartient au groupe Marie-Claire, vous êtes le groupe Turbulence Presse, vous avez fait comment alors ?
Alors là, c'est un gros coup de chance, je dirais, parce qu'on était les premiers surpris. En fait, quand on s'est rendu compte que le magazine qu'on voulait créer correspondait quasiment en tout point à 100 idées des années 70, on s'est dit, on va demander à Marie-Claire s'ils sont OK pour qu'on le refasse.
Ouais.
Et à notre grande stupéfaction et à notre... Avec, on était vraiment super contents, ils nous ont dit oui tout de suite.
Marie-Claire donne l'autorisation,
oui.
Mais pas le financement.
Non.
Vous le financez comment alors ?
Donc en fait, on leur reverse un pourcentage sur les ventes en fait.
Mais après, il a fallu le créer, il y a eu de la participation si je suis bien informé.
Oui, c'est ça, on a fait une campagne de lancement en fait pour lancer le projet justement. Et on
sur
s'était
Kiss Kiss Bank Bank, je vais
c'est
dire.
C'est ça, c'est ça. Ouais. On s'était mis comme objectif de faire 300 préventes, on en a fait 8000, c'est allé très très vite. Avant même que le magazine soit en kiosque hier, on avait 1200 abonnés. Et
oh là
depuis
là.
Hier, 150 de plus, on est super content.
Et là, peut-être beaucoup de gens qui nous écoutent et qui sont en train de s'abonner. Dans l'édito, vous racontez avoir épluché tous les anciens numéros de 100 idées, par définition, pour piquer des idées.
Ouais.
vous en avez retiré quoi ?
J'en ai retiré que finalement, tout ce qui était dans ces magazines-là était, ce que je vous disais tout à l'heure, totalement d'actualité. C'est-à-dire que c'est... totalement tendance. Je pense que les gens aujourd'hui ont complètement besoin de ça, cette espèce de retour au faire soi-même, à la personnalisation de vêtements, de la fraîcheur, de la joie, de la gaieté dans tout ce qu'on fait.
Bien sûr, je vais parler du recyclage, mais d'abord un mot, vous avez retrouvé le directeur artistique du premier 100 idées, il s'appelle Jean-Pierre Marche. Il a plus sa moustache, mais sinon il a à peu près la même tête.
Ouais.
Vous avez conservé son logo.
Oui. Alors, ça faisait partie des choses qu'on
en
voulait conserver.
En grosses lettres rondes, bien 70s.
C'est ça, c'est le logo que Jean-Pierre Marche avait créé et toute les styles de police à l'intérieur du magazine, la maquette, on a vraiment repris les codes des années 70.
Voilà, la tendance du recyclage, je l'ai dit, est passée par là et vous l'avez dit aussi. Juste une info, le textile est le deuxième poste de pollution sur la planète après le transport. Et vous, par exemple, vous trouvez des solutions pour recycler les vieux jeans, pour ne pas
c'est
jeter,
ça.
Pour ne pas racheter.
C'est ça.
Ou alors, il y a des tutos couture. Par exemple, comment se faire, c'est un tuto couture, comment se faire une robe longue, page 34. Bim, la voici. Attendez, je fais tomber ma gourde. Justement, moi, j'ai une gourde recyclable. La robe longue de Léa.
Oui.
Et alors, en petit, il écrit... Alors, je me dis quand même, on est assez loin de Dior et de Givenchy avec cette robe longue. C'est pas lui faire injure. Et en tout petit, il écrit, ce patron est celui d'une djellaba traditionnelle.
C'est ça.
On va pas aller non plus au bal des débutantes avec cette robe.
Non.
C'est quatre pièces de tissu, je vous le reproche pas, mais c'est un choix.
Oui, c'est un choix. L'idée, c'est vraiment de proposer des vêtements qu'on peut porter au quotidien, en fait.
Ouais. Page 46, jamais j'aurais cru que le raffia revienne à la mode. Est-ce que ce sont des photos d'époque qu'il y a dans le magazine ? Parce qu'il y a quelque chose qui me frappe. Personne n'a de téléphone, personne n'a d'ordinateur, personne n'a de portable. Et je me suis dit, vous avez fait exprès pour qu'on ne puisse pas dater ? Ou est-ce que ça, c'est une ancienne photo de 84
que
vous avez remise ?
Non, pas du tout. C'est vraiment... en fait, on a...
C'est vraiment quoi ? C'est vraiment ancien ou c'est vraiment nouveau ?
Non, c'est vraiment nouveau.
D'accord. Ce que vous ne l'avez pas dit. Vous avez utilisé d'anciennes photographies ?
Non. Par contre, on s'est inspiré des anciens tutos, notamment pour le tricot. Ouais. Donc, on est reparti des anciens patrons et on a refait tricoter les pulls. Idem pour la partie enfant, on a un énorme serpent qui fait 4 mètres de long. C'est pareil, c'est un ouvrage que j'ai fait refaire pour avoir des photos actuelles, justement.
Un serpent, c'est pas un vrai serpent, c'est un faux serpent. Il y a un cahier central en noir et blanc qui peut se détacher ou pas dans un autre papier. On parlera du papier après. Savoir-faire sans panique, c'est quoi le but ? C'est comme des tutos, mais sur papier.
L'idée, là, en fait, c'est vraiment... Mais ça aussi, c'est quelque chose qui existait dans le magazine d'origine. C'est-à-dire que on a... comment dire, une photo qui vous donne envie de faire la création et dans le cahier explicatif, on retrouve tous les schémas et justement tout le déroulé des étapes pour pouvoir réaliser sa création facilement.
Ouais, facilement ?
Oui.
Alors, parfois, c'est quand même assez difficile. Vous consacrez 8 pages au pain, oui. Donc 4 pages pour apprendre à faire le pain soi-même. Ensuite, il y a 4 pages de recettes autour du pain. Bon, déjà, c'est pas facile faire son pain soi-même. Mais alors là, attention, je vais me permettre de lire. Vous donnez la recette pour faire soi-même son propre levain. Oui. Alors là, c'est carrément mission impossible. Alors, écoutez ça, mesdames, messieurs. Il faut, pour faire son levain, il faut 100 g de farine T65, 100 ml d'eau et 10 g de miel. Mélangez le tout dans un bocal et refermez. Laissez reposer à température ambiante 48 heures. Lorsque des petites bulles se sont formées, rafraîchissez alors votre levain. Pour cela, prélevez 100 g de préparation et jetez le reste. Puis rajoutez 100 g de farine et autant d'eau. Mélangez et gardez le bocal à température ambiante 36 heures. Recommencez l'opération une troisième, puis une quatrième fois, en attendant 36 heures à chaque fois. Votre levain chef sera prêt en 8 à 9 jours. Vous serez alors prêt à le stocker hermétiquement au frigo. Bon, c'est une complication extrême.
Non, c'est pas compliqué en fait.
Ah bon, vous l'avez fait chez vous ?
C'est une collègue à moi qui l'a testé.
Mais vous ne l'avez pas fait chez vous ?
Moi, je ne l'ai pas fait parce que, par contre, tout l'article sur le pain est vraiment un retour d'expérience puisque pendant le confinement, nous, on a fait notre pain, nos gâteaux. Mmh. Même notre peinture pour repeindre le bureau. Voilà.
Je ne vous le reproche pas, je dois le dire. Parce que pour avoir lu tout le magazine, pour être exhaustif, parfois c'est très pointu et sinon c'est très facile. On continue d'en parler. Et aussi la manière dont vous avez fait ce magazine, notamment le papier, le prix, toutes ces choses-là. On continue à parler de Centidée avec sa rédactrice en chef, Amélie Lamiran. A tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie d'Amélie Lamiran, elle est rédactrice en chef de Centidée qui renaît. Nouveau magazine, le numéro de mai-juin, c'est le numéro 1. Nouvelle formule, si j'ose dire, quoi qui ressemble beaucoup à l'ancienne formule, puisque c'était un magazine iconique, emblématique des années 70-80, qui vendait jusqu'à 420 000 exemplaires. J'ai appris l'histoire en préparant cet entretien. C'était un supplément du magazine Marie-Claire.
C'est ça.
Le supplément marchait très bien, qu'ils l'ont sorti. Et il a vécu sa propre vie avec des scores absolument faramineux. Juste une question, qui est la jeune femme blonde en couverture ? Est-ce que c'est vous ? Est-ce que c'est une fille de l'équipe ?
Alors, c'est une fille de ma famille.
Ouais. Parce qu'il y a quelque chose de très important, c'est qu'il n'y a pas, contrairement aux autres magazines, les photographies ne sont pas des mannequins.
Non.
Qui sont les gens qui posent dans Centidée ?
Là aussi, c'est quelque chose qu'on a voulu reprendre des magazines d'époque. Ça, c'est suite à ma conversation avec Jean-Pierre Marche. Il m'a expliqué un petit peu comment il travaillait.
L'ancien directeur artistique de l'époque.
Oui, c'est ça. Et on avait donc, en fait, j'avais besoin de comprendre comment ils arrivaient à autant de fraîcheur dans leur proposition icono, en fait.
Ouais.
Et il m'a expliqué qu'ils faisaient du casting sauvage, que en fait tous les gens qui posaient à l'époque dans les 100 idées étaient des gens soit de la rédac effectivement, ou soit des gens de leur entourage. Et c'est exactement ce qu'on a fait en fait. Donc là, dans le numéro 1, il y a énormément de personnes qui sont soit de notre famille, soit de notre entourage, soit de la rédaction.
C'est très important, je vais vous citer. Vous dites avoir dans le magazine des modèles de tous les âges, corpulence, origine, photographiés dans des vrais lieux de vie. C'est vrai que ça change. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours exaspéré dans les magazines de déco. On vous présente des meubles ou des objets. Les gens habitent dans des palaces, ils ont des salles de bain avec 4 fenêtres, elles font 30 mètres carrés. On dit mais qui habite là-bas ? Et après, ils vous montrent une petite table à 22 euros. Non, les gens qui ont ces maisons-là, ils n'achètent pas des tables à 22 euros. Vous visez quel public ? Est-ce que vous visez les lectrices de la première heure ou les nouvelles arrivantes ?
Alors, sincèrement...
Évidemment, vous allez me dire les deux, mais en priorité.
Bien sûr.
Mais en priorité.
Priorité, je dirais qu'on sort vraiment sur, comment dire, le succès du magazine iconique pour essayer de faire plaisir et, aux fans des années 70. Mais évidemment, comme c'est très tendance de faire des DIY...
DIY, c'est-à-dire do it yourself,
ouais,
c'est de l'anglais.
C'est ça. Excusez-moi.
Non, mais il n'y a pas de souci, je traduis pour les gens qui ne parlent pas anglais, c'est tout.
Ça, c'est ultra actuel. En fait, je me rends compte, par exemple, à la rédaction, mes collègues qui sont plus jeunes que moi font toutes du crochet, de la couture, de la cuisine, de la pâtisserie. Donc je pense qu'on va, on va s'adresser à la fois aux fans donc, qui ont plutôt entre 50 et 70 ans, mais aussi aux gens plus jeunes qui ont envie de faire par elles-mêmes leurs vêtements, etc.
Vous savez quoi ? Moi, je pensais que le tricot, c'était un truc de grand-mère. Tout à l'heure, dans quelques instants, on va recevoir la comédienne Gwendoline Amont, qui déclarait à Match que pendant le confinement, elle tricotait.
Ouais.
Donc, comme quoi, c'est quelque chose de moderne. Quelle est la part de citadin versus campagnard ?
Alors ça, j'aurais du mal à m'exprimer là-dessus.
Dans les retours que vous avez, je vais vous dire le sens de ma question, c'est qu'il y a un drôle de paradoxe. Aux élections, vous le savez, sont davantage les gens des villes qui votent pour les candidats écolos, sont les citadins qui sont pour le retour de l'ours ou du loup dans les montagnes et non pas les gens du coin. Et je vous pose la question parce que quand vous publiez un tuto pour fabriquer un poulailler, par définition, il faut habiter à la campagne.
C'est clair. Il faut au minima avoir un jardin. Après, on a pareil. En fait, c'est vraiment un retour d'expérience, tout ça. On a des gens qui habitent en ville, alors certes à Clermont-Ferrand, qui ont des petits jardins et qui ont des poulaillers. Là, l'idée du poulailler, c'est vraiment de proposer quelque chose de petit qui peut du coup s'adapter à des petites parcelles.
Vous avez aussi une fanbase, comme on dit. Pardon, maintenant c'est à mon tour de parler franglais. Oh, vous parlez souvent franglais. Hein. Le scotch, de, je ne sais plus comment ça s'appelle.
Ah, le masking tape.
Voilà, le masking tape. Ça veut dire du scotch...
coloré, imprimé.
Voilà. Vous avez une fanbase. Les 100 idéalistes, qui sont-ils, qui sont-elles ?
Alors en fait, ce sont des fans de la première heure qui ont créé, je dirais, au début des années 2000... un blog parce qu'elles se sont rendues compte qu'elles étaient encore nombreuses à vouloir continuer à faire vivre sans idée.
Alors que le journal n'existait plus.
Le journal n'existe plus, oui, effectivement,
incroyable.
Depuis 88.
Voilà.
Donc et ça, on s'en est rendu compte en faisant nos recherches au moment où on était vraiment en train de créer le projet, le mettre sur le papier.
Ouais.
Et elles sont hyper actives, c'est-à-dire qu'elles ont un système de veille. Toutes les semaines, c'est une personne qui veille pour le blog pour répondre aux gens. Et on va dire qu'elle deal des patrons de tricot et de couture depuis les années 2000, en fait. Ça ne s'est jamais arrêté.
Évidemment. Et c'est à elle que vous rendez hommage, parce qu'il y a une double page de remerciements écrit en caractère très, très, très petit. Ça prouve qu'il y a beaucoup de monde à remercier. Donc déjà, rien que pour le numéro 1, ça marche beaucoup. Un mot du papier. Vous l'avez spécialement choisi, le papier.
Oui. Alors, c'est du papier qui est recyclé. Ça nous tenait à cœur.
Ouais.
Et on a.
Je dois dire un mot tout de suite. Ça tient à cœur de tout le monde.
Ouais.
Sauf que ça coûte plus cher.
Bah, ça coûte
plus
cher.
C'est pour ça que c'est intéressant, la question.
Et imprimé en France aussi, ça coûte plus cher. Mais c'est des choses sur lesquelles on ne voulait pas tergiverser. En fait.
Ouais. C'est un surcoût de combien ? C'est 10%, 20%, 50% ?
Ouais, je pourrais pas vous dire.
Ce matin, j'ai que des gens qui ne connaissent pas les prix. J'ai reçu un documentariste qui ne connaissait pas les prix de la minute. Les encres aussi sont spéciales, sont spécifiques et vous avez souhaité comme telles.
Oui, c'est vrai. Mais c'est vraiment une caution qui nous semblait importante pour coller vraiment à l'ADN du magazine qu'on propose.
Alors, je vais le dire, ce sont des encres labellisées Blue Angel pour, je cite, « une meilleure recyclabilité ». Et là aussi, contrairement à la plupart des magazines, vous êtes imprimé en France avec un label. Le label Imprime Vert, c'est un meilleur bilan carbone. Là aussi, c'est un énorme surcoût. Mais vous êtes un petit groupe. Comment vous avez pu faire accepter ce surcoût, à votre direction et surtout à votre direction financière ?
Alors vraiment, c'est un choix qu'on... C'est un choix qu'on met en pratique sur tous nos titres, finalement. Parce que pour nous, c'est important d'avoir ce côté « écolo », entre guillemets, pour nos magazines.
Ouais.
Et l'autre chose qui fait que pour nous, c'est possible, c'est que notre économie de marché ne fonctionne pas sur la pub. C'est-à-dire que pour nous, l'important, c'est les ventes kiosques. C'est-à-dire que si le magazine ne marche pas en kiosque, ça ne marche pas. On n'a pas de budget pub qui font que le mag est pérenne.
Il y a quelques publicités où elles sont juste, j'allais presque dire, ornementales.
Alors, je crois qu'il y a 4 pages de pub, mais on n'ira jamais vraiment au-delà, en fait. Hein.
Le modèle économique, c'est lequel 5,90 € pour 128 pages, un beau papier, mais qui coûte cher, on l'a dit, parce que c'est du papier français et recyclé. Vous devez vendre combien par mois, en 2 mois, pour être rentable, pour être à l'équilibre ?
Là, on est sur, si on en vend 30 000... On est super bien.
Voilà. Vous avez imprimé à combien ?
Là, on tire à 80 000 exemplaires.
D'accord. Là aussi, il y a un problème qu'il faudra régler un jour. C'est que tous les journaux le savent.
Ouais.
Pour vendre 30 000, il faut tirer davantage.
Ouais,
si vous tirez 30 000, c'est impossible de vendre 30 000.
C'est ça.
Il y a une déperdition mécanique dans les journaux. Et c'est peut-être un sujet sur lequel il faudra travailler. Le prochain numéro sort dans 2 mois. Donc, par définition, là, c'est le numéro de mai-juin. Vous savez déjà ce qu'il y aura en une, ce que vous allez faire dans le numéro 2 ?
Alors, j'ai pas le visuel de couve, mais je sais sur quoi je vais travailler.
Allez-y.
Alors, il y aura un grand article sur la Grèce et l'artisanat grec. Mmh. On aura le wax mis en avant.
Qu'est-ce que c'est le wax ?
Le wax, c'est le tissu africain.
D'accord.
Donc, j'ai des créations qui sont en cours. Mmh. On aura une déclinaison autour autour de la broderie.
D'accord.
Et après, le reste est à Calais.
Le reste est à Calais. Merci beaucoup, Amélie Lamiran. Je
c'est
rappelle,
Sans
Idées, qui se trouve aujourd'hui dans tous les kiosques, les librairies, les relais. 114 pages, plus un gros cahier central en noir et blanc. 5,90 € seulement. Merci d'avoir été avec nous.
Merci
bon
beaucoup.
Vent à Sans Idées. Culture Média continue. Après le rappel des titres de 10h, on va recevoir Eva Rock pour son zapping du lendemain avec un doc passionnant dont on a un peu parlé déjà dans le journal des médias sur la représentation des ados dans les films. Et Bertrand Chamerois pour son écran de veille qui s'est intéressé à une séquence qui a beaucoup fait parler hier. C'est Pascal Praud qui est en faveur de la GPA et de la PMA. Oui, notre invitée c'est Gwendoline Amont qui ne fait pas que tricoter. Elle est comédienne. Et quelle comédienne ? Elle incarne la série Cassandre qui revient samedi sur France 3. Et puis dans les indispensables du soleil dans nos assiettes, on va parler de barbecue. Il y a une magnifique cuisine dans ce journal Sans Idées et un roman sur la solidarité. Quel programme ? À tout de suite.
Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Je ne sais pas combien d'heures j'ai passé à regarder des séries. Et vous d'ailleurs. Vous êtes féru de séries, vous ne savez plus quoi regarder, vous voulez tout savoir sur l'envers du décor, ou vous adorez simplement qu'on vous raconte des histoires.
Découvrez Sériland, le podcast d'Europe 1 Studio présenté par Eva Rock.
Sériland, c'est le podcast qui vous conseille les meilleures séries du moment. Vous pouvez le retrouver sur Apple Podcasts, Deezer ou sur votre plateforme habituelle d'écoute.